France Internationale 2h à Paris.
Mathis Limano.
Minuit en temps universel à la une. Que s'est-il passé près de la résidence de Donald Trump en Floride? Un homme a été arrêté. Il est suspecté de tentative d'assassinat sur le candidat républicain à la présidentielle. À Miami, David Thompson sur l'avancée de l'enquête. Le Honduras, endeuillé par un nouveau meurtre de militants pour l'environnement. Le pays d'Amérique centrale est l'un des plus dangereux au monde pour ses militants. Vous l'entendrez. De nouvelles grâces présidentielles en Biélorussie. Une trentaine de personnes l'ont été ce lundi par le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko qui continue cependant de tenir son pays d'une main de fer. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, cette tentative d'assassinat sur Donald Trump. Un homme armé a été maîtrisé alors qu'il s'était approché du golf de la propriété du candidat républicain en Floride. Appréhendé après avoir été mis en fuite, le tireur présumé comparaissait ce matin pour la première fois devant le tribunal de West Palm Beach en Floride. L'incident est officiellement considéré par les autorités américaines comme une tentative d'assassinat contre Donald Trump. C'est la deuxième en 2 mois après celle de Butler en Pennsylvanie. Aux États-Unis, David Thompson, le débat sur la sécurité de Donald Trump est relancé.
L'analyse du téléphone du suspect montre qu'il a passé plus de 11 heures sur place, caché dans les buissons à la lisière du golfe de Palm Beach, à attendre Donald Trump avec son fusil d'assaut AK-47. Lorsque l'agent du Secret Service le repère et ouvre le feu dans sa direction, Ryan Roos est à portée de tir de sa cible à 300, peut-être 400 mètres de lui. Comment cet individu est-il parvenu à s'approcher si près du candidat républicain? Comment a-t-il su que l'ancien président allait jouer au golf à ce moment précis, et ce, à 2 mois à peine de sa première tentative d'assassinat? Le débat sur les failles sécuritaires ne fait que commencer aux États-Unis. Aujourd'hui, dans sa résidence de Mar-a-Lago, Donald Trump doit rencontrer le chef par intérim des Secret Service qui remplace l'ancienne chef de cette police de protection des hautes personnalités, elle-même poussée à la démission après les failles sécuritaires constatées lors de la première tentative d'assassinat de Trump durant son meeting de Butler en Pennsylvanie. De son côté, l'ancien président salue le travail du Secret Service qui est parvenu à faire fuir le suspect avant qu'il ne puisse ouvrir le feu. Le candidat républicain dénonce en revanche la rhétorique de sa rivale Kamala Harris qui aurait, selon lui, inciter le suspect à passer à l'acte. David Thompson, Miami RFI.
Kamala Harris et Joe Biden se sont dit eux soulagés que Donald Trump soit sain et sauf. Et on l'a appris dans la soirée, le tireur présumé aurait agi seul et n'aurait pas tiré, selon le Secret Service. De son côté, le ministre de la Justice a promis de mettre tous les moyens en œuvre dans l'enquête. Par ailleurs, aux États-Unis, Boeing toujours dans la tourmente. Le constructeur fait face à une grève paralysant la production du 737 Max. L'avionneur a dû prendre des mesures pour préserver ses liquidités devant ce mouvement social, parmi lesquelles le gel des recrutements et des mesures temporaires de chômage technique dans les prochaines semaines. Et puis c'en est fini pour l'armée américaine au Niger. Les autorités ont annoncé tout à l'heure avoir achevé le retrait des soldats et du matériel du pays, conformément aux exigences du régime au pouvoir. Le Niger, touché hier par 2 attaques dans les régions de Dosso et Tillaberi, un poste de douane et de police incendié à Tounouga, à la frontière avec le Bénin et le Nigeria, et une position de l'armée a été prise pour cible à Niaktiré, dans le Gourma nigérien. Pas de bilan officiel, mais des sources civiles parlent d'une 15aine de morts civiles et militaires. En Amérique centrale, le Honduras est l'un des pays les plus dangereux du monde pour les militants de l'environnement. Juan López, 46 ans, a été criblé de balles samedi en sortant d'une église. Il était coordinateur d'un collectif de lutte contre une mine de fer à ciel ouvert dans un parc protégé et il avait obtenu en mai dernier la fin des concessions minières dans ce parc. Rita Romero, l'avocate de ce collectif.
Juan López es un ambientalista, un defensor de derechos humanos, un hombre humilde.
Juan López était un défenseur de l'environnement, un défenseur des droits de l'homme et un homme modeste. Son combat était de sauver un parc national protégé où se trouve la source de plusieurs fleuves. Un jour, les communautés locales se sont rendues compte que l'un des fleuves devenait marron. Les gens ne pouvaient plus se baigner car l'eau provoquait des démangeaisons. Il était même impossible de laver le linge dans l'eau de ce fleuve à cause des rejets de deux mines de fer. En octobre 2023, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a ordonné des mesures de protection pour Juan López et 36 autres militants menacés. Mais l'État hondurien n'a rien fait et voilà le résultat. Juan a été assassiné. Et
allí tenemos el resultado de la muerte de Juan.
Propos recueillis par Raphaël Moran. Inacceptable, le manque de moyens de la mission kényane en Haïti. Les mots d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Il a dénoncé le manque de contribution à cette mission multinationale censée aider la police haïtienne, dépassée par la violence des gangs. De nouvelles grâces présidentielles en Biélorussie. Ces deux derniers mois, les autorités biélorusses ont gracié à plusieurs reprises des personnes détenues pour avoir protesté contre le pouvoir. Début septembre, Alexandre Loukachenko avait gracié 30 prisonniers politiques et 30 autres mi-août. À nouveau, ce lundi, le dirigeant biélorusse a gracié 37 personnes emprisonnées pour extrémisme, terme généralement employé pour qualifier les opposants à Nissel Jabri.
Comme la fois précédente, l'annonce des libérations n'est pas assortie du nom des concernés. Comme la fois précédente, la Biélorussie affirme que tous se sont, je cite, « repentis » et ont fait des demandes de grâce. Elle qualifie cette décision sur le site internet de la présidence de, je cite, « nouveau geste humain de l'État envers ceux qui se sont égarés ». Ceux qui se sont égarés, comme dit Minsk, seraient encore, selon l'ONG de défense des droits humains, Viasna, 1300 derrière les barreaux. Quelques-uns parmi tous ceux qui ont protesté contre la réélection d'Alexandre Loukachenko en août 2020, une élection jugée frauduleuse par l'opposition. Figure de ces cortèges inédits par leur ampleur depuis l'indépendance du pays en 1991, Maria Kolesnikova, on ne sait plus rien d'elle à ce stade, sauf un état de santé en prison décrit comme alarmant par ses proches. Ils indiquent qu'elle a notamment perdu beaucoup de poids. Les conditions de détention sont considérées comme particulièrement éprouvantes en Biélorussie et des cas de torture sont documentés. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
La répression ne faiblit pas en Biélorussie. Au cours des trois derniers mois, plus de 200 personnes ont ainsi été condamnées pour avoir manifesté. Rien que cette semaine, au moins 33 personnes doivent être jugées pour avoir protesté contre le pouvoir, a souligné l'ONG de défense des droits humains Viasna. Alexandre Loukachenko a lui fait savoir il y a quelques mois sa volonté de se représenter à la tête de l'État en 2025. Un paysage de désolation et un cauchemar selon les victimes. La tempête Boris continue de balayer l'Europe centrale. Au moins 18 morts, des milliers de sinistrés et d'immenses dégâts, encore difficiles à estimer. Roumanie, Autriche, République tchèque, Pologne, des pluies incessantes s'abattent depuis vendredi. Et le calvaire n'est pas fini, d'après les scientifiques. Les rivières et fleuves vont encore gonfler dans les prochains jours. Inondation également en Birmanie, où le bilan s'alourdit. Le typhon Yagi a fait au moins 226 morts et plus de 320 000 personnes déplacées, selon la télévision d'État. Direction Bruxelles maintenant, où il y a du changement à la Commission européenne. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a annoncé son départ de la Commission ce lundi. Il se dit désavoué par la présidente Ursula von der Leyen, qui a, selon lui, demandé à la France de retirer son nom de la liste des candidats. Exit Thierry Breton au profit de Stéphane Séjourné, un nom proposé par l'Élysée. Le choix du ministre démissionnaire des Affaires étrangères a été immédiatement critiqué par l'opposition. Valérie Gasse.
Macron envoie son clone à la Commission sans consulter personne et au mépris du vote des Français. C'est ainsi que la députée européenne insoumise Manon Aubry a réagi sur X à l'annonce de la proposition de remplacer Thierry Breton par Stéphane Séjourné, actuel ministre des Affaires étrangères démissionnaire comme commissaire européen. Une critique partagé par d'autres responsables politiques comme le communiste Yann Brossat, le LR Julien Aubert ou encore le député européen RN Thierry Mariani qui évoque sur X l'art de recaser les petits marquis déchus de la Macronie. En cause, la proximité de Stéphane Séjourné avec Emmanuel Macron, ancien conseiller politique du président et actuel secrétaire général de Renaissance, il a été placé par le chef de l'État à la tête du Quai d'Orsay lors de la formation du gouvernement Attal. L'Élysée justifie pour sa part le choix de Stéphane Séjourné journée par son parcours, ancien député européen et président du groupe Renew au Parlement de Strasbourg, ce qui le rend directement opérationnel à Bruxelles. La présidence affirme aussi que cette décision a été prise en accord avec Matignon pour couper court aux critiques.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Et puis pour refermer votre journal, cette information, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala va briguer un second mandat à la tête de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Presque 2h10 à Paris, minuit en temps universel. Retour de l'information dans 50 minutes.